Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le terrain le sportif.
Il n'y a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit que tu viens jouer à l'Université de Montréal. You're gonna compete with the best against the best tous les jours.
Gagner beaucoup de trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear.
Le terrain le sportif. Terrain. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue au Terrain Sportif, votre émission hebdomadaire de sport sur les ondes de CSM et de CFAC, tous les lundis matin 10h30 à midi pour la session d'automne. On a fait la session d'été et on revient pour la session d'automne et on sera là également pour la session d'hiver et jusqu'à temps que mort s'en suive. Donc j'espère que vous allez bien, Wissem Bensta au micro avec vous. On salue les gens de la région de Sherbrooke également avec CFAC, le 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Et ici, ben, CSM, c'est le 89.3 FM, c'est la plus grande radio universitaire francophone au monde, ni plus ni moins que cela, chers auditeurs. Donc aujourd'hui, au menu, on va parler Ligue des champions. On va commencer avec ça, puis on va parler également d'Europa League et de Conference League. On va parler soccer aujourd'hui beaucoup, puisqu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Il y a un tirage important avec une nouvelle formule dans le monde du soccer européen. On va parler de ça. Également, le CF Montréal était en action. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Mathieu Chouanière, lui, il a quitté. Il est officiellement avec les Grasshoppers de Zurich, un club de première division suisse. Donc, on le remercie pour ses services avec le CF Montréal. On va parler sport universitaire, puisque soccer et football ont déjà débuté également. Je crois qu'il y a eu du rugby. On va donner les résultats, puis ce qui se passe dans le monde du sport universitaire, un peu beaucoup québécois, mais on va donner quelques résultats dans le monde du football canadien universitaire avec d'autres petites actualités de qu'est-ce qui se passe. Il y a des nouvelles en ce qui a trait à la boxe. Et puis, également, on va commencer l'émission par ça. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais prendre quelques secondes, puisque comme nous sommes au Québec, à Montréal, au Canada, on le sait que le hockey, c'est un sport national ici, que c'est un sport très important. Toutes les personnes qui ont grandi au Québec ont grandi avec le hockey, de près ou de loin. Ça a été mon cas. Je collectionnais les cartes de hockey quand j'étais petit. Puis après ça, ma passion, elle a shifté pour le soccer. Mais je garde beaucoup de passion pour le hockey. Je regarde très souvent, là, très régulièrement, surtout en match éliminatoire. Puis je l'écoute à la radio également. Et il y a une nouvelle très triste qui s'est passée dans le monde du hockey avec un joueur connu, un joueur qui a joué à Calgary, qui a joué avec les Blue Jackets de Columbus. Et ce joueur n'est plus. Il s'agit du hockeyeur Johnny Gaudreau. C'est un Américain. Il est décédé vendredi matin. Pardon, je ne sais pas si ça se passait vendredi matin. Ça se passait jeudi soir, exactement. Donc, jeudi soir, il est décédé lorsqu'il a été happé, lui et son frère, par un chauffard alors qu'il circulait à vélo. Le chauffard avait essayé de faire un dépassement. Et en faisant le dépassement, eh bien, il a frappé. Il a happé les deux joueurs, en fait, Johnny Gaudreau et son frère, qui est en train de faire de la bicyclette. Ils étaient là dans la région, qui sont des Américains là, de cette région-là, du New Jersey. Il y avait un mariage du côté de Philadelphie le vendredi là, de la même semaine. Et donc, ils sont décédés. C'est très jeune, âgé là, de 31 ans pour Johnny Gaudreau. Donc, on va faire une petite minute de silence pour le joueur qui est décédé trop jeune, très jeune, et dans des circonstances malheureusement très tragiques. Voilà donc nos condoléances à la famille de Johnny Gaudreau et au monde du hockey, famille, amis. On espère, on est très désolé ici au terrain sportif de la lourde perte de ce joueur talentueux et de cet être humain si jeune. Maintenant, chers auditeurs, on va commencer par parler de la Ligue des champions européenne, puisqu'on sait cette émission, le terrain sportif, est très fan, très supportive du soccer européen et mondial. Et puis là, c'est la Ligue des champions, puis il y a une nouvelle formule cette année. Donc, on va prendre quelques minutes pour parler de ça. Tout d'abord, avant, c'était 8 groupes avec 4 équipes dans chaque groupe, donc 32 équipes en tout qualifiées. Les deux premiers de chaque groupe étaient qualifiés pour le prochain tour, c'est-à-dire les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Maintenant, ça l'a changé. C'est un gros groupe de 36 équipes qualifiées. Donc, il y a 4 équipes qui se rajoutent aux 32 habituellement qualifiées. Bien sûr, ça n'est pas les mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont été rajoutées qui ne sont pas nécessairement là, qui font pas partie des grands, grands pays de soccer européen, comme par exemple l'Espagne continue avec Girona, qui a terminé, je crois, 3e, 4e, Atlético Madrid, Barcelone et Real Madrid. Donc encore 4 équipes pour les Espagnols. Donc ça fait plus de place aux plus petits championnats, si on peut dire ça comme ça. Donc les équipes qualifiées, on va les nommer. Il y en a beaucoup, donc attachez votre sucre. Manchester City, Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, l'Inter de Milan, Dortmund et Leipzig. Donc ça, c'est les grandes équipes, si on peut dire ça comme ça. Barcelone, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Bruges de la Belgique, Shakhtar Donetsk de l'Ukraine. En ce qui a trait au Shakhtar Donetsk, ils ne font pas leur match à la maison. Ils jouent généralement leur match dans d'autres pays pour des raisons évidentes. Donc des fois c'est en Pologne, des fois c'est en Allemagne, en République tchèque, donc dans d'autres pays. Même parfois en Roumanie, si je ne m'abuse. Fait intéressant, le championnat ukrainien se passe du côté de l'Ukraine, mais pour les matchs de Ligue des champions et de Coupe européenne, les matchs ne sont pas joués en Ukraine. Donc voilà la nuance. AC Milan est également qualifié. Le Feyenoord de Rotterdam des Pays-Bas, le Sporting Club de Portugal, PSV des Pays-Bas, Dynamo Zagreb de la Croatie, Red Bull Salzbourg de l'Autriche, Lille de France, Red Star Belgrade de la Serbie, Young Boys de la Suisse, Celtic Glasgow, Slovan Bratislava, ça c'est de la Slovénie, et Monaco, Slovaquie, pardon, pas Slovénie, Slovaquie, Monaco, Sparta Prague de la République tchèque, Aston Villa de l'Angleterre, Bologne, Girona, je l'ai déjà mentionné, Stuttgart de l'Allemagne et Sturm Graz de l'Autriche, avec Brest qui va participer à sa première performance en Ligue des champions. C'est quand même un exploit pour le club de France. Je ne donne pas cher de leur peau, mais malgré ça, ils sont là, ils sont qualifiés pour la Ligue des champions édition 2024-2025. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a 36 équipes en tout. Les 8 premières équipes sont qualifiées pour les ce qu'on appelle là, les huitièmes de finale. Ensuite de ça, le 9e jusqu'au 24e se bat pour une place en huitième de finale. Donc en fait, si tu termines premier à huitième, tu es garanti d'être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et si tu termines de la 9e place jusqu'à la 24e place, donc le 9e jusqu'au 24e place, tu as une chance quand même de te qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce qui est un peu une formule étrange parce que entre le mérite de terminer 9e et 24e, il n'y a pas une grande différence. Si ce n'est que le 9e au 17e vont recevoir le match retour à la maison puisque ça va être joué dans des matchs aller-retour. Et le 25e jusqu'au 36e, eh bien c'est bye-bye, retour à la maison et il n'y aura pas de reversement en Europa League ou en Conference League comme on avait auparavant, c'est-à-dire avant tu terminais 3e de ton groupe de Ligue des champions, tu avais la possibilité de rejoindre l'Europa League qui est la deuxième compétition la plus importante en Europe. Là, tu termines 25e à 36e, c'est bye-bye, retour à la maison. Et ce qui est intéressant avec cette compétition-là de la Ligue des champions, ce que j'aime bien, c'est que ça n'est pas par groupe que le classement est effectué, mais c'est toutes les équipes ensemble de la première à la 30e place. Et donc, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont être très près les unes des autres avec le même nombre de points. Et donc, ça, c'est plaisant. Le tirage a été fait vendredi dernier pour du côté de Monaco. Hein, c'est tout le temps à Monaco ou la Suisse, tout le temps dans ces endroits-là que les tirages sont faits pour la Ligue des champions. Et on sait quelle équipe va jouer contre quelle équipe. Maintenant, comme ça n'est pas des compétitions de groupe, chaque équipe va jouer deux matchs contre une équipe de chaque chapeau, si on peut dire ça comme ça. Le chapeau, c'est-à-dire qu'il y a quatre chapeaux avec neuf équipes dans chaque chapeau. Et puis, tu as deux adversaires dans chaque chapeau. Un de ces adversaires-là, tu vas le recevoir et l'autre adversaire, tu vas devoir aller jouer chez lui. Donc, il n'y aura pas des matchs aller-retour contre les mêmes équipes. Je vais en profiter pour donner les affrontements qu'on va avoir, principalement avec les équipes là, les plus prestigieuses. Puis, je ferai aussi le tour avec nos équipes, avec les équipes françaises, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs français et françaises qui nous écoutent. Donc, peut-être que ça les intéresse, même si souvent j'entends mes amis français, nos cousins, dire « Ah non, moi, le foot, ça m'intéresse pas trop. » Mais là, au terrain sportif, le foot ou le soccer, ça nous intéresse. Donc, vous allez devoir écouter, chers auditeurs, chers auditrices, et on vous remercie d'être présents. Le Real Madrid, l'équipe la plus titrée de l'histoire en Europe. 8 matchs, Borussia Dortmund, Liverpool, AC Milan, Atalanta, Red Bull Salzbourg, Lille, Stuttgart et Brest. Donc, deux Français et deux Italiens là, pour Real Madrid. Manchester City va jouer contre l'Inter de Milan, le Paris Saint-Germain, Club Bruges, la Juventus, Feyenoord, Sporting Club de Portugal, Sparta Prague et le Slovan Bratislava. Bayern Munich contre le Paris Saint-Germain, l'FC Barcelone, le Benfica, Shakhtar Donetsk, Dynamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam, Bratislava et Aston Villa. Aston Villa, c'est l'équipe de notre très sympathique, c'est du sarcastiquement bien entendu, là, du gardien de but argentin qui est connu pour ses phrases qu'il joue à Aston Villa. Il va connaître la Ligue des champions cette année. On va voir s'il ne va pas d'ailleurs avoir un petit déplacement en terre française. Paris Saint-Germain, pour lui, c'est Manchester City, Bayern Munich, Atlético Madrid, Arsenal, PSV, Red Bull Salzbourg, Girona et Stuttgart. Donc, quatre gros adversaires là, pour le Paris Saint-Germain. Lui qui n'a toujours pas gagné la Ligue des champions. Donc, un tirage très difficile. Liverpool, c'est Real Madrid, Leipzig, Bayer Leverkusen, AC Milan, Lille, PSV Eindhoven, Bologne et Girona. On va y aller avec d'autres clubs maintenant, on va pas toutes les nommer. L'FC Barcelone, pour lui, c'est Bayern Munich, c'est Dortmund, c'est Atalanta, c'est Benfica, c'est Young Boys, Red Star, Belgrade, Brest et Monaco. Leverkusen, c'est Inter Milan, Liverpool, Milan, Atlético Madrid. Bon, le Bayern Leverkusen, on va le sauter vite fait. Là. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant? On va aller avec nos clubs portugais, Benfica, Barcelone, Bayern Munich, Atlético Madrid, Juventus. Donc, c'est très difficile pour le Benfica, là, le club de Lisbonne. Arsenal, lui, va jouer contre le Paris Saint-Germain, l'Inter de Milan, Shakhtar Donetsk, Atalanta, Dynamo Zagreb, Sporting Club de Portugal, Monaco et Girona. Fait à noter, c'est que les équipes de la Russie, donc CSKA Moscou, Zenit Saint-Pétersbourg et compagnie, elles sont toutes exclues de la Ligue des champions et des compétitions européennes, étant donné là, la guerre qui se passe du côté de l'Europe de l'Est. Et donc, voilà pour les équipes. Donc, en termes géographiques, là, quand on regarde ça, le Shakhtar Donetsk, c'est de loin l'équipe qui est le plus à l'Est de l'Europe en termes géographiques. Et le plus à l'Ouest, ben, ce sont nos équipes de Lisbonne avec Benfica et le Sporting Club de Lisbonne. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a d'autres équipes en Europe qui sont très, très loin du continent européen. On parle ici de Santa Clara aux Açores et de Tenerife aux îles Canaries et de Las Palmas également. Mais ce sont des équipes qui n'ont pas habitude de se qualifier là, en compétition européenne. On a déjà eu des équipes du Kazakhstan qualifiées, mais pour la Ligue des champions, ils ne seront pas présents cette année. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Et donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Là, les matchs, ça va commencer bientôt. On va vous donner ça là, dans quelques instants. J'ai les journées ici, là, la petite Ça commence la fin de semaine du 17 au 19 septembre 2024. Pour la première journée de phase de Ligue des champions, la phase de Ligue, ou si on peut appeler ça comme avant, là, la phase de groupe. Et la finale, eh bien, ça va se passer le 31 mai 2025 du côté de l'Allianz Arena à Munich, en Allemagne. Maintenant, on va parler un peu de l'autre compétition européenne qui s'appelle l'Europa League, qui est quand même une compétition de goût, une compétition que Séville a dominée plusieurs fois. Et on va voir qu'est-ce qui se passe du côté de la UEFA Europa League. Mais avant, on s'en va en musique. De retour sur les ondes de CSM et de CFAQ, vous écoutez l'émission Le Terrain Sportif, émission hebdomadaire qui vous parle de sport d'une autre façon, tous les lundis 10h30 à midi sur les ondes de CSM et 20h-21h30 sur les ondes de CFAQ le même lundi. Aujourd'hui, eh bien, c'est l'édition du 2 septembre. C'est le week-end de la fête du travail et c'est également, ça rime avec la rentrée scolaire. Et là, on vient entendre trois chansons back-à-back. C'était tout d'abord Sur la terre de Petite Annie, Aimé, aimé de David Giguère et pour terminer, Club italien de la couleur avec l'album Dolce Désir. Maintenant, en ce qui a trait à l'Europa League, qui est la deuxième compétition en importance du côté européen, là, on a beaucoup d'équipes qualifiées également. On en a 36. C'est une nouvelle formule également pour cette ligue qui s'appelait antérieurement, là, ça s'appelait la UEFA Cup, la Coupe UEFA. Et maintenant, eh bien, c'est l'Europa League depuis quelques années. Le champion en titre, c'est l'Atalanta de Bergame, club italien du nord de l'Italie, club rival d'ailleurs de Naples à l'époque où est-ce que Maradona jouait avec Naples. C'était très difficile pour Naples de faire les déplacements du côté de l'Atalanta Bergame. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais à l'époque, c'était difficile, comme on dit. Donc, 36 équipes, on va les nommer. Vous allez voir que c'est un peu plus exotique. Là, il y a des clubs qui sont très loin. Donc, Rome, Manchester United, Porto, l'Ajax, Rangers, Francfort, Lazio de Rome, Tottenham, Slavia Prague, Real Sociedad, AZ Alkmaar des Pays-Bas. Ça, c'est l'ancien club de Mihailovic qui est revenu du côté du Colorado, l'ancien joueur de l'Impact du CF Montréal. Braga du Portugal, l'Olympiakos, Lyon. PAOK, Fenerbahçe de la Turquie, Maccabi Tel Aviv, Ferencvaros de la Hongrie, Karabakh, ça c'est en Azerbaïdjan, mesdames et messieurs, il va en avoir du déplacement dans cette ligue-là. Galatasaray de la Turquie, Victoria Pilsen, République tchèque, Bodo Glimt de la Norvège, l'Union Saint-Gilloise du côté de la Belgique, je crois c'est Gilloise peut-être, je ne suis pas certain de la prononciation, désolé à nos amis belges, Dynamo Kiev de l'Ukraine, Ludogorets Razgrad de la Bulgarie, pas beaucoup de clubs bulgares ces temps-ci dans les compétitions européennes, le soccer bulgare ne va pas très bien, chers auditeurs, chères auditrices. Midtjylland de Danemark, Malmo de la Suède, ça c'est l'ancien club de Zlatan Ibrahimovic, Athletic Bilbao, ça, c'est dans le Pays Basque, en Espagne. D'ailleurs, la finale, elle aura lieu à San Mamés. Ça, c'est le stade de l'Athletic Club Bilbao. Et donc, peut-être qu'il y aura une finale à domicile, on ne sait jamais. Hoffenheim de l'Allemagne, Nice, Anderlecht, Twente Beşiktaş de la Turquie, Steaua Bucarest de la Roumanie. Également, le football roumain, ces temps-ci, ça va pas très bien. De la Lettonie, on a RFS et de la Suède, on a Elfsborg. Donc, vous voyez, c'est un peu exotique, là. Il y a des longs déplacements là-dedans, chers auditeurs, chers auditrices. Il va y avoir du gaz qui va être brûlé. Et quand on regarde là, le déplacement le plus loin possible, eh bien, c'est Porto Karabakh d'Azerbaïdjan. Puis il y a aussi, je ne l'ai pas nommé, là, le Maccabi Tel Aviv qui semble être qualifié d'Israël, mais je ne l'ai pas vu dans la liste. On va aller retourner, peut-être j'en ai sauté. Ah oui, Maccabi Tel Aviv, ils sont là également. Donc, il y a du long déplacement. Maintenant, qui va jouer contre qui? On va essayer de vous informer un peu, puis on va vous trouver des déplacements style NHL, c'est-à-dire Los Angeles jusqu'à Montréal, ou bien Los Angeles jusqu'à la capitale nationale, pour des matchs hors saison préparatoires pour les Kings aux frais des contribuables québécois de Québec et peut-être du reste de la province. Ça reste à vérifier avec les hommes qui gèrent ça. Donc, on va y aller tout d'abord Rome, eh bien, ils vont jouer contre Francfort, Tottenham, Braga, Alkmaar, Dynamo Kiev, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao et Elfsborg. On va aller avec nos clubs là, qui sont un peu loin, nos clubs Porto. Eh bien, ils ont un long déplacement du côté de Tel Aviv en Israël. Sinon, ben, c'est la Norvège, c'est l'Allemagne, c'est Anderlecht. Et donc, pas de long déplacement. On va aller voir nos amis de l'Azerbaïdjan, là, Karabagh. Ils vont jouer contre qui? Et puis, ils vont jouer où? D'ailleurs, on va aller voir ça. Un petit problème technique. Chers auditeurs, chers auditrices, la page ne veut pas loader. Et oui! C'est les aléas du live, mais non, je suis pas live. Donc, Karabagh, ça va se déplacer du côté de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la France, de la Grèce, de la Suède, de la Roumanie. Donc, ça sera pas très loin. Et une autre fois en Suède. Donc, ils vont se déplacer deux fois du côté de la Suède. Donc, le déplacement le plus long, chers auditeurs, chers auditrices, de cette compétition-là, eh bien, ça va être Karabagh qui va se déplacer du côté du Royaume-Uni pour jouer à Londres contre Tottenham Hotspurs. Et nos amis de Bodø/Glimt aussi là, en Norvège, ça c'est au nord complètement de la Norvège. Eux aussi, ils vont avoir du déplacement. Ça va être cher de gaz, mesdames et messieurs, cette compétition-là. Fait à noter, il n'y a aucun club turc qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions, ce qui est quand même une catastrophe. Il y en a trois. En Europa League, Fenerbahçe et Galatasaray n'ont pas pu se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils ont perdu contre des Suisses en particulier, là, contre les Young Boys Bern et également contre Lille pour Fenerbahçe. Fenerbahçe, c'est un club qui est maintenant entraîné par nul autre que notre ami José Mourinho. Et également... Bodø/Glimt, là, ils ont regardé les déplacements du club norvégien du Nord. Ils vont devoir aller jouer du côté de Porto, contre Porto. Ils vont aller à Manchester United. Ils vont recevoir Maccabi Tel Aviv. Ils vont devoir aller à Braga. Ils reçoivent Karabagh. Ils s'en vont du côté de la Belgique. Ils reçoivent les Turcs de Beşiktaş et ils s'en vont à Nice. Donc, Karabagh, en fait, ils ont du long déplacement. C'était pas clair là, là-dedans. En fait, à bien y penser, après analyse, là, le déplacement le plus long de cette compétition-là, ça va être le Maccabi Tel Aviv, qui est en Israël, donc ça c'est au Moyen-Orient, qui va aller devoir jouer jusqu'au nord de l'Europe, en allant jouer du côté de Bodø/Glimt. Juste pour vous dire, là, l'Écosse, là, c'est tropical par rapport à Bodø/Glimt quand on regarde une carte de l'Europe. C'est à peu près à la même hauteur là, que l'Islande. Donc voilà le déplacement que vont devoir faire une des deux équipes. Là, je ne sais pas si c'est les Norvégiens ou les Israéliens. Eh bien non, c'est les Israéliens qui vont devoir aller jusqu'à Bodø/Glimt. Donc ça va être quand même un très 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 long déplacement pour eux. Donc voilà. On va y aller avec la Conference League. Hein. Comme on dit, on ne change pas une formule qui gagne. Encore une fois, nouvelle formule pour la Conference League. Ça, c'est la troisième compétition continentale de clubs européens avec 36 clubs. Et si vous pensiez que la Ligue des Champions, c'était exotique et que la Europa League, c'était exotique, attachez votre chapeau parce que là, on en a des équipes exotiques dans des pays exotiques puis ça fait plaisir à voir. On a de l'Islandais, de l'Irlandais, du Kazakh, on a du Roumain, on a de l'Arménien, de l'Italien, de l'Espagnol, du Belge, du Norvégien, du Suédois, du Finlandais, du Polonais, de l'Autrichien, du Tchèque, une équipe de la Biélorussie, l'FC Dynamo Minsk. Et je pense qu'on bat le record là, du transport avec les Air Miles. Donc on va mentionner les équipes qualifiées pour cette ligue-là. Ben, Chelsea, gros club anglais qui est qualifié pour cette ligue-là. C'est un peu injuste d'ailleurs d'avoir des gros clubs comme ça. Ça devrait être... Si tu as déjà gagné la Ligue des Champions dans les 10-15 dernières années, tu ne devrais pas avoir le droit de participer à cette compétition-là. Donc Chelsea, malgré sa saison catastrophique l'année dernière, eh bien, il va avoir une chance de remporter un trophée européen. Donc dans ce groupe, qui est-ce qu'il y a? Il y a Chelsea, Copenhague, Gent, Fiorentina, d'autres clubs comme le Real Betis, il y a Istanbul, Başakşehir, Legia de Varsovie, Victoria de Guimarães, Astana du Kazakhstan, Olympia Ljubljana de la Slovénie, Shamrock Rovers de l'Irlande, The New Saints du Pays de Galles, Petroclub de la Roumanie, Panathinaikos, ça c'est un géant de la Grèce, Dynamo Minsk de la Biélorussie, on a Vikingur Reykjavik, Noah de l'Arménie, Heart of Midlothian, de l'Écosse. Puis c'est pas mal ça, les autres clubs, c'est ça, là. FC Heidenheim des Allemands, Fiorentina, LASK de l'Autriche. Maintenant, dans les groupes, qu'est-ce que ça donne? On va faire le petit groupe de Chelsea, parce qu'on va, parler des grands clubs. Ben, Chelsea, ils vont jouer 8 clubs. Gent de la Belgique, Heidenheim de l'Allemagne, Astana du Kazakhstan, Shamrock Rovers de l'Irlande, Panathinaikos de la Grèce, Noah de l'Arménie. Donc, ce qui m'intéresse, il y a des clubs ici, là, l'Arménie, l'Islande, l'Irlande. C'est pas des clubs généralement qui... des pays qui ont des clubs qualifiés en compétition européenne. Ça n'est vraiment pas arrivé souvent. Et donc, pour eux, ben, ça va être une honneur de pouvoir y participer. On ne peut pas en dire autant des clubs de l'île de Chypre, parce que Chypre, il y a déjà des clubs là-dedans qui ont fait la Ligue des Champions et l'Europa League. Là, c'est quand même des clubs, on va pas dire très bons, mais des clubs corrects qui participent une fois de temps en temps aux compétitions européennes. Donc moi, c'est mes amis de Astana du Kazakhstan. On fait de la géopolitique là-dedans, là, du sport géographique. Astana, ils vont recevoir Chelsea à la maison. Ils s'en vont du côté de l'Apoel Nicosie, ça c'est en, à Chypre. Et puis Astana, là, quand vous regardez sur une carte, c'est très très loin. C'est à peu près environ, c'est à la même hauteur que Mumbai. C'est aussi à l'est que Mumbai en Inde. Donc pourquoi ils jouent en Europe? Aucune idée. Ils ont une partie probablement qui fait partie de l'Europe, parce que la Russie joue en Europe. Quand ils sont évidemment autorisés à jouer, malgré que la Russie a une partie énorme qui est sur le continent asiatique. Mais le Kazakhstan, pour être bien honnête avec vous, on dirait que c'est à côté de pays comme par exemple ici, je crois que c'est pas l'Ukraine. C'est à côté de la Russie, en fait, le Kazakhstan. C'est bloqué par la Russie à l'ouest. C'est pas très loin de la Géorgie. De l'Azerbaïdjan, de l'Arménie qui eux jouent dans des compétitions européennes. Donc bref, l'UEFA a décidé qu'ils jouent avec l'Europe. Donc ils jouent avec l'Europe. Donc pour nos amis de Astana, eh bien ils vont recevoir Victoria de Guimarães. Ce qui veut dire que nos amis portugais, ils vont devoir parcourir 7000 km environ pour aller jouer un match de soccer. Donc ça, il y a évidemment des fuseaux horaires qui vont être déplacés. C'est 11h15 d'avion avec, bien sûr, il n'y a pas de vol direct entre le Portugal et le Kazakhstan, selon mes souvenirs. Mis à part de ça, nos amis du Kazakhstan, eh bien, ils vont se déplacer du côté du Pays de Galles. Et là, c'est presque aussi loin que le Portugal, donc un long déplacement pour nos amis kazakhs. Ils reçoivent les Tchèques, ils s'en vont en Suisse, puis ils reçoivent une équipe de la Slovénie. Donc voilà, c'est pas mal ça, les déplacements. Puis on va y aller avec nos amis de Noah de l'Arménie. Eux, ils s'en vont du côté de l'Angleterre à Chelsea, ils s'en vont en Autriche, ils s'en vont en Serbie, donc c'est pas si pire pour eux. Mais il va y avoir quand même un déplacement Víkingur Reykjavik, qui va se déplacer du côté de l'Arménie. Donc ça aussi, c'est tout un déplacement. Voilà. Là. C'est intéressant de parler de ça. L'année dernière, le championnat, le Conference League, il a été remporté par nos amis grecs de l'Olympiakos avec un but du Marocain, Ayoub El Kabi, qui a marqué en prolongation pour donner la victoire aux Grecs. Et donc, ça fait un titre continental pour les Grecs. Eux qui n'avaient pas gagné quelque chose là, au niveau européen depuis très longtemps. Donc, félicitations à eux. Les journées seront les mêmes pour les matchs. Le tout va commencer très bientôt. Là, ça commence le 2 octobre. Istanbul, Başakşehir, Rapid de Vienne. Et puis, contrairement aux autres ligues, ce sont des groupes de 6 équipes, je crois. Donc, chaque équipe va jouer 6 matchs contre une autre équipe et non pas 8, contrairement à l'autre compétition qui est la Ligue des Champions et l'Europa League. Et puis, fait à noter, là, il va y avoir des clubs là-dedans que ça va être leur première apparition dans cette troisième compétition en importance en Europe en termes de soccer de clubs. Il faut le mentionner quand même parce que bien que c'est la troisième, ça reste qu'il y a des grands clubs qui sont là-dedans. Panathinaikos, par exemple, ils ont gagné 20 fois le championnat grec. Ils ont perdu une finale de Ligue des Champions, qui est la plus grande compétition de clubs au monde. On a Chelsea là-dedans qui a gagné la Ligue des Champions. FC Copenhagen qui a été champion du Danemark plein de fois, il a joué la Ligue des Champions. Fiorentina en Italie. Le Real Betis qui a gagné la Coupe d'Espagne il y a quelques années. Istanbul Başakşehir qui a gagné le titre de champion turc. Le Rapid de Vienne qui est quand même un club connu. Donc voilà, des clubs connus quand même qui vont se qualifier. Et il y en a des nouveaux. Eh bien, ça va être la première fois qu'ils vont se qualifier pour une compétition européenne d'envergure comme celle-ci. On a Borac Bandia Luka. Ça va être leur première fois. On a le Cercle Bruges. On a Celje de la Slovénie qualifié. FC Heidenheim de l'Allemagne. On a Jagiellonia Białystok de la Pologne. Larné de l'Irlande du Nord. Donc ça fait plaisir de voir des clubs nord-irlandais. On a Noah de l'Arménie. On a Paphos de Chypre, pardon, et non pas de la Grèce. On a Petroclub de la Roumanie. New Saints du Pays de Galles et Viking Reykjavik de l'Islande. Et quant à Noah, eh bien, c'est le premier club en Conference League de l'histoire qui se qualifie en ayant remporté ses 4 rondes. Donc voilà pour une petite présentation des compétitions européennes. On va avoir beaucoup d'action, 6 matchs pour chaque équipe en Conference League, et pour la Ligue des Champions et l'Europa League, ça sera 8 matchs par club. En cas d'égalité, eh bien, il y a ce qu'on appelle les tiebreakers pour départager les équipes. Eh bien, les premiers critères seront la différence de buts, ensuite le nombre de buts marqués, le nombre de buts marqués à l'extérieur, le nombre de victoires à l'extérieur. Et puis après ça, si ça sera au sixième critère, eh bien, ce sera la confrontation directe entre les deux équipes. Donc voilà, la saison de soccer européenne va commencer très 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 bientôt et on va en parler beaucoup au terrain sportif. Sur ce, on s'en va à musique et on revient après ceci. De retour sur les ondes de CSM et de CFAQ, vous écoutez l'émission Le Terrain Sportif avec votre animateur Wissam Bensta, édition du 9 septembre 2024. Cette semaine, on parle soccer, on parle sport universitaire. Et là, on vient entendre deux chansons back-à-back, Florida de Étienne Dufresne, tiré de l'album Excalibur. Et après ça, ça a été Blanchissage pour Richard, des Anticipateurs, tirés de l'album Tour du Chapeau. Maintenant, avant de parler du CF Montréal puis d'un peu plus de soccer, on va donner quand même une petite minute à nos athlètes universitaires du Canada, hein, les Canadiens, qui ont décroché la médaille d'argent, non pas aux Jeux Olympiques, mais aux Championnats du monde universitaire de golf de la Fédération internationale de sport universitaire. Donc, il y a des fois ce qu'on appelle des universiades et donc des compétitions à travers le monde entre toutes les meilleurs athlètes universitaires. Et bien, les Canadiens ont décroché une médaille très importante. L'équipe canadienne masculine de golf a pris le deuxième rang de l'épreuve par équipe des championnats du monde universitaire de golf de la FISU, disputé du 27 au 30 août à Kuortan Seinäjoki en Finlande. L'équipe canadienne était menée par William Forg de l'Université Laval, dont la performance étincelante lui a valu le 7e rang du classement individuel, terminant le tournoi 2 coups sous la normale. Forg a également complété la compétition en ramenant une carte de 68, 4 coups sous la normale. Anthony Jonf de l'Université de Montréal a conclu le tournoi à égalité au 21e rang, 8 coups au-dessus de la normale, tandis que J.P. Callert de l'UBC a joué 10 coups au-dessus de la normale, terminant la compétition individuelle au 24e rang. Ce trio de Canadiens a terminé 11 coups de l'Espagne, médaillé d'or qui comptait 2 joueurs sur le podium individuel. Et ce tournoi qui réunissait les meilleurs golfeurs universitaires au monde a vu l'Espagne remporter l'or par équipe chez les hommes et chez les femmes également. Et quant aux Canadiennes Morgan Best, Ella Jones et Christy Godkin, elles ont jumelé leurs efforts pour conclure au 12e rang du classement. Donc on félicite là nos athlètes du Québec, William Forg et également la deuxième de Anthony Jonf. Donc félicitations à eux avec JP Callert également. Maintenant, on va parler CF Montréal. Puis c'est pas des bonnes nouvelles, mais vraiment pas des bonnes nouvelles. Notre équipe estivale du mois de... Ça commence même avant l'été, ça commence en février. Puis ça finit à peu près en octobre. Puis si on fait les séries éliminatoires, ça peut même aller jusqu'en novembre. Puis même des fois un peu plus tard que ça. Et là, notre équipe qu'on suit depuis février à tous les matchs, dont on parle à la radio très régulièrement, elle ne va pas bien. Et là, À l'heure actuelle, le CF Montréal non seulement ne fait pas les séries éliminatoires, mais ça va être très difficile pour le club de les faire. Le dernier match en règle, ça se passait samedi le 31 août. Le week-end dernier, il n'y a pas eu de match là, parce que c'est la trêve internationale, donc des matchs internationaux. On va donner quelques petits résultats là, tout à l'heure. Eh bien, ça a été une fessée avec un F majuscule de 4 à 1 contre Cincinnati, qui est la deuxième meilleure équipe dans l'Est. Hein? Donc, c'est pas n'importe qui, Cincinnati, là, en Ohio. Avec des buts de Kevin Kelsey, Luca Orellano, avec deux buts, et Sergio Santos. Et Opoku, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais il se bat. Chaque fois qu'il rentre, même quand c'est un massacre contre le CF Montréal, il se donne et il a marqué un but. Donc évidemment, il est souvent remplaçant cette année. Joseph Martinez, qui est le meilleur attaquant du club sur le banc pour ce match-là. Sunusi Ibrahim, également, qui est un des meilleurs buteurs du club sur le banc. On le sait, là, depuis qu'il a été écarté d'un match à cause de sa performance à l'entraînement ou de son attitude à l'entraînement, selon le coach Laurent Courtois, eh bien, il n'a plus beaucoup joué comme titulaire. Et donc, les deux meilleurs buteurs du club avec 6 buts et 5 buts ont commencé sur le banc. Mathias Coccaro, lui aussi, qui a déjà eu quelques petits pépins légers avec l'entraîneur et avec certains joueurs, eh bien, lui aussi a déjà été sur le banc, a déjà été puni. Donc ça, c'est les trois meilleurs buteurs du club. 6 buts Sunusi, 5 buts Martinez, 4 buts Coccaro. Donc les trois ont déjà eu une forme de mini-punition, si on peut dire ça comme ça. Mathieu Chouanière, le quatrième meilleur buteur du club, il n'est plus là. Il avait 2 buts. Right? Donc, les choses vont pas très bien pour le CF Montréal. On va pas faire la langue de bois. Ça va très mal. Quand on regarde, évidemment, le match contre Cincinnati, c'est dominé. C'était une équipe qui était beaucoup plus forte que celle du CF avec des joueurs désignés de classe mondiale. Alors que nous, le joueur désigné qu'on a, eh bien, c'est un milieu défensif qui est sur le banc. Ça, c'est la réalité. Ça fait mal, mais c'est ça. On peut pas en dire plus. J'aimerais ça que ça aille mieux que ça. Mais les hommes de Pat Noonan, eh bien, ils ont mis une fessée au club du CF Montréal. Et quand on regarde ça, les trois derniers matchs en MLS, ou même on va y aller avec, les trois derniers matchs en MLS du CF Montréal, c'est, ouvrez bien vos oreilles là, de Sherbrooke à Montréal, c'est Fax et ISM. Défaite de 4 à 1 contre Cincinnati à l'extérieur. Défaite de 5 à 0 à domicile contre la Nouvelle-Angleterre. Et la Nouvelle-Angleterre, mesdames et messieurs, on ouvre les oreilles encore une fois, bien grande. La Nouvelle-Angleterre, là, au classement à l'heure actuelle, ils sont en bas du CF Montréal. On va dire qu'ils ont 2 matchs en moins, oui, c'est vrai. Mais dans la conférence de l'Est, à l'heure actuelle, il y a seulement une équipe pire que la Nouvelle-Angleterre, et c'est Chicago. Les hommes de Sheridan Shaqiri. Et Nashville aussi. Nos amis de Nashville. Et donc, et l'autre match en MLS, c'était une défaite de 1-0 à domicile contre Toronto FC. Donc, 10 buts encaissés, 1 but marqué. Bon, on va y aller tout simplement avec les 3 derniers matchs, incluant le dernier match en Leagues Cup. Défaite de 2-0 contre Philadelphie. Si on compte ça, c'est 11 buts encaissés, 1 but marqué. Donc, les choses, malheureusement, ne vont pas bien. Au niveau du jeu, c'est vrai que généralement, c'est plus plaisant à voir que l'année dernière. Ça, c'est clair. Sauf que ce qui risque de peut-être se passer, malheureusement, c'est que l'année dernière, les séries, on les a jouées au dernier match de la saison. Le dernier match de la saison, on était en mesure de peut-être se qualifier pour les séries éliminatoires. Puis ça s'est joué là avec un concours de circonstances. Je pense que Charlotte a battu l'Inter de Miami de Lionel Messi. Puis nous, on a perdu. Donc si la Charlotte ne gagnait pas, on était là. On a terminé avec 41 points. Et Charlotte est terminée avec 43 points. Ça, c'était l'année dernière. Là, cette année, à l'heure actuelle, eh bien, on a 27 points. Il nous reste 7 matchs à jouer. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le CF Montréal, on a une des meilleures schedules, ou cédules, comme on dit en bon français. Schedule. On a un des meilleurs calendriers de toute la ligue en termes de facilité. On joue Charlotte deux fois. Bon, Charlotte, c'est correct. C'est une équipe correcte qui sont devant nous. Mais Charlotte, c'est pas là les Chicago Bulls de Michael Jordan. Là. On s'entend. On joue la Nouvelle-Angleterre une fois chez eux. Opportunité de prendre une revanche. Ils sont derrière nous au classement. On joue Chicago, qui sont à l'heure actuelle pires que nous au classement. On joue San Jose. Et non pas San Jose. On joue San Jose, qui est la pire équipe de toute la ligue. San Jose, là, c'est 27 matchs joués, 5 victoires, 2 nuls, 20 défaites, 63 buts accordés en 27 matchs. Pire attaque de toute la ligue, bien pire défense de toute la ligue. En termes d'attaque, par contre, il y a des équipes qui sont pires qu'eux, notamment la Nouvelle-Angleterre et Nashville. Donc, San Jose, qu'ils ont 34 buts de marqués en 27 matchs. Et la Nouvelle-Angleterre, qui nous ont massacré 5-0, si on enlève leurs 5 buts, là, ils sont à 23 buts. Ça serait la pire attaque de toute la ligue. Donc, la Nouvelle-Angleterre, ça a été vraiment une défaite humiliante. On a déjà parlé, on ne va pas faire le retour là, en ce qui a trait au CF Montréal. Donc, San Jose, si tu ne les bats pas à Montréal, tu ne mérites pas de faire les séries. Après ça, on s'en va à Atlanta. On reçoit, on s'en va en Charlotte. Ça, Charlotte, tu penses en Caroline du Nord ou du Sud, en tout cas, un de ces deux coins-là. Puis on termine la saison à domicile contre New York City FC, qui est probablement là, le meilleur club qu'on va jouer d'ici la fin. Donc, c'est pas impossible. Mais à l'heure actuelle, le classement, ça donne quoi? Le classement, ça donne le suivant, dans l'Est. Miami, premier, deuxième Cincinnati, deuxième New York City, pardon, troisième Red Bulls. Quatrième, excusez, ça c'est le classement domicile, me dit aussi que Cincinnati est deuxième, voilà. Miami premier, Cincinnati deuxième, troisième Columbus, quatrième Red Bull, cinquième New York City, sixième Charlotte, septième Orlando. Ça c'est les sept équipes, les sept postes qui mènent à une place dans les séries directement. Après ça, les huitième et neuvième places, ce sont des places où est-ce que le huitième va jouer contre le neuvième et le gagnant de ce match-là va jouer contre le premier. Qui, à l'heure actuelle, il y a des fortes chances que ce soit l'Inter de Miami de Lionel Messi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si on fait les playoffs, il y a des bonnes chances qu'on joue contre Miami. Et Toronto, à l'heure actuelle, ils ont 33 points. Et Atlanta, qui est le dernier poste au classement disponible pour les séries, ils ont 27 matchs joués, 31 points. Le CF Montréal a 27 matchs joués comme Atlanta et ils ont 27 points. Donc, ils ont 4 points de retard. Et nos amis de la Nouvelle-Angleterre qui sont derrière nous, ils ont 2 matchs en moins avec 1 point de retard. Donc, s'ils gagnaient leurs 2 matchs en main, eh bien, 26 plus 6, ça fait 32. Donc, pour que le CF Montréal se qualifie pour les séries, ça va prendre un changement drastique. Et surtout, ça va prendre des victoires obligatoires à domicile contre Charlotte, à domicile contre Chicago, à domicile contre San Jose et aller chercher au moins, dans le pire des cas, un match nul du côté de la Nouvelle-Angleterre. Après ça, le match à Atlanta, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais c'est faisable. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Est-ce que si vous me demandez de parier mon bobblehead de Richard Zednik que j'ai acheté à la friperie, ben je vous dirais non, je le parie pas que le CF Montréal va faire les séries à l'heure actuelle parce qu'il y a trop de bons joueurs qui sont sur le banc. Je sens aussi que il y a des joueurs qui sont tannés, il y a des joueurs qui sont partis. Puis je sens que quand tu perds comme ça à domicile 5-0, je sens qu'il y a des choses qui se passent. Parce que j'ai des sources, quoi que ce soit, non. Mais je sens que il y a certains joueurs qui ont abandonné. Je ne vais pas nommer lesquels. Il y a eu des rotations énormes dans le 11 titulaire. C'est vrai, il y a eu des blessés. Il y a des joueurs qui sont partis jouer avec l'équipe canadienne. Mais il y a des bons défenseurs, par exemple, qui ne jouent plus, qui sont sur le banc, qui ont été très bons l'année dernière. Et ce qui ne marche pas, le soccer, c'est clair que le CF Montréal, le président l'a dit, tout le monde l'a dit. Le DG, le président, le coach, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit. Le CF Montréal, c'est pas un club qui va aller chercher des grands, grands joueurs puis qui va payer des montants énormissimes pour pouvoir signer des vedettes. Ça, c'est clair. Mais ça prend quand même des joueurs désignés qui peuvent apporter un gros plus au CF Montréal. Parce que quand on regarde la plupart des clubs, là, ils en ont au moins deux, la plupart. Hein. Chicago, ils en ont juste un. Hugo Kuipers, qui fait quand même des belles choses là-bas, là, avec le club des Chicago Fire. Il a quand même marqué 10 buts en 26 matchs. Atlanta, ils en ont deux. Austin, ils en ont trois. Charlotte, trois. Colorado, trois. On s'entend que Colorado, là, c'est pas la mecque du soccer. Columbus, trois. DC, deux. Dont Benteke, Cincinnati 2, Dallas 3, Houston 3, Miami 3, LA Galaxy et Los Angeles FC 3, Minnesota 3 joueurs désignés, Nashville 3, Nouvelle-Angleterre 3, New York City FC 2, Red Bulls 3, Orlando City 3, Philadelphie 2, Portland 2, Salt Lake 2, écoutez, le Real Salt Lake, on parle pas là du Real Madrid, San Diego FC qui sont même pas encore rentrés dans la Ligue en 2025, ils ont déjà signé El Chucky Lozano, qui va devenir un des meilleurs joueurs désignés de toute la ligue. San Jose, ils en ont 3. Seattle, 3. Sporting, Kansas City, 3, 2. Saint Louis, 3. Toronto FC, 2. Puis Vancouver, 3. Et nous, on en a un, comme Chicago, sauf que notre joueur désigné, eh bien, il ne joue pas. Et donc, ça, c'est un petit problème qu'il faudrait éventuellement régler. Parce que on parle pas là, d'amener Zinedine Zidane, Drogba. Quand on regarde l'historique des joueurs désignés du côté du CF Montréal, le plus grand joueur probablement de l'histoire du CF Montréal, c'est peut-être Ignacio Piatti de 2014 à 2019. C'est un joueur désigné. Marco Di Vaio également. Drogba également. Safir Taider également. Georgi Mihailovic également. Donc dans cette liste-là, il y a des très grands joueurs. Drogba, Di Vaio. Il y en a d'autres qui sont un peu sous l'étage, dans l'étage du dessous. Georgi Mihailovic, Taider, Piatti, je parle mondialement, là, connu, je ne parle pas par rapport à ce qu'ils ont fait avec le CF Montréal. Et donc, ça va prendre peut-être un peu de renfort. Je dis bien un peu, parce qu'on sait qu'on vend. On a vendu Choignard, on a vendu Georgi Mihailovic, on a vendu Koné et compagnie. Et donc, éventuellement, ça va prendre une équipe. Puis là, les billets de saison, oui, ils ont été vendus. Sold out. Record du club. Mais on sait très bien que ça a été sold out parce qu'il y avait un certain Lionel Messi qui débarquait. Et que ça valait la peine, au lieu de payer un billet pour Lionel Messi et aller le voir, acheter les billets de saison du CF Montréal. Ça revenait presque plus avantageux d'acheter les billets de saison que de payer un match parce que c'était à peu près d'un prix similaire, mettons. Right? Alors oui, sur le plan des joueurs locaux de l'académie qui jouent avec le club et après ça qu'on peut vendre, oui, c'est un succès. Après ça, ça va prendre un peu de renfort. Ça va prendre un peu. Un peu. Puis pas là, là. Peut-être pour la saison prochaine. On sait jamais. On sait jamais, je vous parle pas là, d'un Karim Benzema ou d'un, d'un Luis Suarez ou d'un Lewandowski ou d'un Giroud. Juste des petits joueurs comme ça à gauche, à droite, qui pourraient aider. Si vous me dites que Sergio Ramos, il veut débarquer à Montréal, je le signe. Mais évidemment, le club ne le prendront pas parce que c'est beaucoup trop cher pour le CF. Et je les comprends. Mais ça va prendre quelque chose. Ça va prendre du changement parce que ça fait à date... Depuis que Wilfried Nancy est parti, puis ça, c'était une autre affaire aussi. C'est que Wilfried Nancy, il y avait des bons joueurs, mais il n'y avait pas non plus l'effectif de Pep Guardiola ou du Real Madrid d'Ancelotti. Et avec les joueurs qu'il a eu, il a été capable de faire des choses incroyables. Et cette année, Wilfried Nancy, le même entraîneur avec qui ça n'a pas marché à Montréal, malheureusement, pour des raisons, je vous dirais, personnelles, hein? Des conflits entre certaines personnes, il est parti puis il a offert deux titres majeurs à Columbus. Et donc, si on décide d'utiliser ce modèle-là, qui a, oui, fonctionné avec Wilfried Nancy, ben, il faudrait garder le coach. Mais là, malheureusement, ça ne sera pas possible. Donc voilà pour le CF Montréal. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On souhaite bonne chance au club. Les playoffs ne sont pas... c'est pas terminé, mais ça va être difficile. Très difficile. Prochain match, Montréal contre Charlotte le 14 septembre. C'est samedi le 14 à 19h30. Et c'est au stade Saputo. Donc, allez encourager l'équipe. Il n'y a pas de grosses vedettes là avec Charlotte, mais ça va quand même être un bon match. Je n'y serai pas, puisqu'il y a gala de boxe, si je ne m'abuse, à la TOHU. Et donc, je serai probablement à la TOHU. Puis si l'accréditation ne marche pas à la TOHU, ben, on sera au stade Saputo. Et puis, on va parler du club, de toute façon, que j'y sois ou que je n'y sois pas. Donc voilà, c'est ce qui termine le mini-chapitre sur le CF Montréal. On s'en va en musique. Puis après ça, on revient avec quelques petites actualités à gauche et à droite. De retour sur les ondes de CSM et de CFAC, vous écoutez l'émission hebdomadaire de sport Le Terrain Sportif, édition du 9 septembre 2024. Donc, deux chansons francophones pour vous à l'instant. C'était « 4 à Mexico » de Nicolas Huard, tiré de l'album « Le visage dans les mains ». Et après ça, ben, c'était « Jassé, you don't love me » de Milandrea, tiré de l'album « Wishbone EP ». Donc, voilà. Maintenant, pour terminer l'émission, là, je veux parler du gala de boxe qui va se passer le 14 septembre. Ça, c'est samedi de cette semaine, même journée que le CF Montréal. Ça se passe à la TOHU, ça c'est à Montréal. Et puis, il y a du gros combat, il y a du lourd. Les billets sont entre 75 à 300$. Vous me direz, oui, c'est beaucoup. Mais une fois dans votre vie, allez voir un événement de boxe comme ça là, à la TOHU avec beaucoup... presque 10 combats cette soirée-là, ça vaut la peine, ça les vaut. Donc ça va être le combat entre Jessica Camara face à l'Ontarienne Bonnie Hunter pour sa première défense de titre. Ça c'est le combat là, électrisant de la soirée, le combat marquee. Mais également il y a Mathieu Germain qu'on surnomme G-Time qui sera là pour s'opposer au vétéran chilien Christian Palma. On sait que Mathieu Germain aussi, c'est un des chouchous là, au Québec dans la boxe. Et donc, il sera là. Sinon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 combats en tout. Et, bon, vous savez, dans les combats de boxe, généralement, la carte, elle est donnée avant l'événement. Donc, on sait quel combat il y aura. Mais des fois, il y a des petites surprises et des petites annulations. Donc, est-ce que ça se peut qu'il y en ait un qui soit annulé? Oui, c'est possible, mais la grande majorité de ces combats-là, ils vont être là. Donc, on va les présenter. Tout d'abord, on a chez les mi-moyens Nathalie Fagan de Montréal qui fera ses débuts, qui va jouer contre Maxime Novosedlik de Ottawa. Chez les mi-moyens également, le Mexicain Obed Sepulveda qui va jouer contre Sammy Morissette qui va faire ses débuts. Blaise Sylvestre de Repentigny chez les Super Plumes va jouer contre Alexandre avec un E, Perron. De Montréal qui fera ses débuts. Reed Thwohey des Super Moyens de Montréal va jouer contre Marc Chéry de Montréal. Chez les légers, Théotilus Owosu de Pierrefonds, lui qui a quand même de l'expérience dans le monde de la boxe, là, c'est pas son premier combat, va combattre contre John Elroy Fruto de Surrey. Jean-Gardy François de Montréal chez les Super Plumes va affronter Frédéric Thomas. Jay Biard de Surrey va affronter Shane Upshaw de Halifax, le seul de cette carte qui vient de la Nouvelle-Écosse. Et là, je l'ai dit, Mathieu Germain et Christian Palma. Et Bonnie Hunter de Scarborough, Ontario, contre Jessica Camara de Montréal, Québec. C'est un combat qui a quand même des bons sponsors, là, notamment la Cage au Sport. Et Canada Fighting, c'est quand même réputé là, dans le monde de la boxe. C'est connu notamment là, pour la vente d'équipements de Vox. Et c'est quelqu'un qui est une entreprise qui est très respectée et très connue à travers le Canada. Donc, allez-y. Allez encourager la boxe locale. C'est une occasion d'une vie. Moi, je serai présent pour ce combat-là. C'est très rare que je manque le CF Montréal, mais pour celui-là, on n'a pas le choix d'y aller parce que bon, c'est à la TOHU, c'est un environnement qui est là d'habitude pour les arts, la créativité, la performance. Il y a des cirques aussi là-dedans. Mais là, il n'y aura pas de cirque, ça va être de la boxe en plein milieu de la TOHU. Et puis, ça va être fantastique. La boxe montréalaise, puis quand on regarde ça là, chez la boxe québécoise, dans cette carte-là, Il y a énormément de combattants, de boxeurs qui viennent du Québec. Si je regarde vite fait, on en a 1, 2, 3, 4, 5. On en a 6 sur 18 qui ne viennent pas du Québec. Là. Donc, la très grande majorité, ils viennent du Québec. Et j'inclus là-dedans Maxime Novoselic qui vient d'Ottawa. Là, lui, c'est pas très loin du Québec. Donc, on va l'inclure dans le Québec. Et c'est le match de championnat WBA Gold World entre Bonnie Hunter de Scarborough, Ontario, et Jessica Camara chez les poids légers. Donc, voilà la carte de boxe du 14 septembre 2024. Du côté là de la TEU, ça va être une soirée électrisante. Puis j'ai assisté, je vais en parler la semaine prochaine à l'émission. J'ai assisté aux entraînements de Jean-Pascal, de Terry Ozias. Ce sont des très bonnes entrevues pour vous la semaine prochaine. On va en parler parce que c'est le retour de Jean-Pascal, un des plus grands de l'histoire de la boxe québécoise. Ça va se passer le 21 septembre du côté du Colisée Laval. Donc, on va en parler la semaine prochaine. On va passer beaucoup de temps en parlant. On va peut-être inviter William Dumoulin, notre expert côté boxe au Québec et au Canada. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette émission du Terrain Sportif, édition du 9 septembre 2024. Merci beaucoup d'avoir été présent sur les ondes de CSM et de CFAQ. C'était Wissem Bensta au micro. Je vous souhaite une excellente semaine et on reparle de sport lundi prochain, 10h30, midi. Bonne semaine et au revoir.